France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. L'inquiétude et le désarroi en Ukraine après le plan de paix américain particulièrement favorable à la Russie. Les Européens espèrent encore améliorer ce plan validé par Donald Trump. Dans ce journal, le reportage à Kiev de notre envoyé spécial Virginie Pironon. Trois jours de grève en Belgique contre les réformes du gouvernement de Wever. Les syndicats belges dénoncent une véritable casse sociale. Nous irons à Bruxelles dans un instant. En France, Sébastien Lecornu veut y croire. Il existerait toujours une majorité pour voter son budget. Le Premier ministre qui propose une nouvelle méthode bâtie sur des compromis. Méthode encore très incertaine. Nous verrons cela avec Stéphane Robert. À la fin de ce journal, nous rendrons hommage à Jimmy Cliff, l'autre figure emblématique du reggae américain. Jimmy Cliff disparu à l'âge de 81 ans. L'Union européenne salue ce soir un nouvel élan dans les négociations de paix sur l'Ukraine. Les dirigeants européens actuellement présents en Angola pour une rencontre avec leurs homologues africains se gardent bien de critiquer ouvertement le plan américain pour mettre fin à la guerre. On va y revenir dans un instant. Hier à Genève, l'Ukraine et les États-Unis ont entamé des discussions qualifiées de productives sur ce plan en 28 points, pourtant très favorable à la Russie. Et effectivement, la population ukrainienne redoute les concessions faites à Moscou. Le reportage à Kiev de Virginie Pironon, Yachar Fazilov et Marc Garvenès.
Et ce qui a particulièrement choqué ici à Kiev, c'est que la souveraineté de l'Ukraine soit foulée du pied. Pavlo, 21 ans, est étudiant en master d'économie à l'université Shevchenko de Kiev.
Le premier point affirme que l'Ukraine gardera sa souveraineté. Et ce point est totalement nié. Parce que d'abord, le nombre de soldats de l'armée ukrainienne sera diminué et que le pays aura l'interdiction d'entrer dans l'OTAN, ce qui est déjà une violation de la souveraineté de l'Ukraine.
Le président Volodymyr Zelensky est placé face à un dilemme effroyable. Accepter ses propositions et devenir celui qui aura acté la capitulation du pays ou résister et perdre le soutien des États-Unis. Irina, 23 ans, se dit exténuée par cette situation. Les Ukrainiens sont tués. Et en Europe, tous observent ça tranquillement. On aimerait bien qu'ils nous aident plus, qu'ils agissent. On nous propose tout un tas d'accords, mais les conditions demandées ne sont jamais bonnes pour nous. Il nous faut toujours céder quelque chose. Combien de personnes sont déjà mortes pour tout ça? La crainte partagée par tous ici, c'est qu'un accord avec la Russie n'empêche pas à terme le régime de Moscou de poursuivre son agression d'une façon ou d'une autre.
Virginie Pironon, envoyée spéciale de France Culture en Ukraine. C'est donc depuis l'Angola, en marge du sommet entre l'UE et l'Union africaine, que les principaux dirigeants européens ont réagi officiellement au plan Trump pour la paix en Ukraine. Une première réaction positive. Ce plan est une base solide pour avancer, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, estime la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Marie Mollet, vous êtes notre envoyée spéciale en Angola. Les Européens continuent d'essayer de peser pour équilibrer ce plan.
Oui, et pour cela, prochain rendez-vous demain, réunion en visioconférence de la coalition des volontaires. Les Européens ont salué un nouvel élan, en effet, après la réunion de Genève, mais restent prudents, trop tôt pour dire s'il s'agit là d'un tournant. Il n'y aura pas de percée diplomatique dès cette semaine, a prédit le chancelier allemand Friedrich Merz. En revanche, à Genève, il y a eu des avancées, d'après une source européenne, sur plusieurs points, la question de la limitation du nombre de soldats ukrainiens, sur les garanties de sécurité aussi, les Américains se sont engagés à en fournir eux-mêmes dans une annexe, un papier présenté hier à Genève. En revanche, hier, les points les plus sensibles ont été écartés des négociations, ceux qui relèvent directement des chefs d'État et pas de leurs émissaires. Les Européens ont désormais plusieurs priorités, que les points qui les concernent directement soient décidés par eux-mêmes et non par les États-Unis, c'est le cas des avoirs russes gelés, et que la Russie revienne à la table des négociations. Le Kremlin affirme ce soir que les propositions européennes ne leur conviennent pas.
Marie Mollet, merci. Le plan de paix pour l'Ukraine, on en reparle après ce journal dans Questions du soir avec Quentin Laffey. La guerre qui continue à sévir aussi au Proche-Orient, en dépit des cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Israël a tué hier le chef militaire du Hezbollah dans une attaque sur Beyrouth, la première sur la capitale libanaise depuis 5 mois. La milice pro-iranienne organisait aujourd'hui les funérailles de ce chef militaire, alors que la trêve semble déjà appartenir au passé. Le reportage à Beyrouth d'Arthur Saradin.
On est dans la banlieue sud de Beyrouth, sous les drones israéliens et entouré par des immeubles éventrés.
À quelques minutes d'ici, le Hezbollah a organisé des funérailles, celles de Haitham Tabtabaï, son chef militaire, assassiné hier par l'armée israélienne. Alors ici, on est loin de l'amphithéâtre des Grands Jours. C'est un parking qui accueille la cérémonie. Autour, quelques centaines de sympathisants et une file d'hommes en treillis qui apportent le cercueil de l'ancien état-major sous les slogans. Abu Jaafar habite le quartier.
La guerre, en réalité, ne s'est jamais arrêtée. Si le Hezbollah rend les armes, on nous attaquera. Et s'il garde son arsenal, on nous attaquera aussi. Alors, si dans tous les cas, nos maisons sont vouées à être attaquées, autant garder de quoi se défendre avec dignité.
Sur l'estrade, un homme vient de prendre la parole. C'est un cheikh, Ali Damouche, président du conseil exécutif du Hezbollah. Il appelle l'État libanais à prendre ses responsabilités pour protéger ses citoyens. C'est assez rare que le Hezbollah en appelle à l'État, sans le menacer, quand on sait le bras de fer qui se joue avec lui autour de son arsenal. Dans la rue, on se trouve, toujours les mêmes slogans, scandés par la même foule à chaque rassemblement, alors qu'un cortège de milliers d'hommes se dirige vers le cimetière. C'est un peu la même partition qui se répète depuis 2 ans. Avec elle, la même crainte au moment où la pression s'accentue sur le Liban, celle d'un retour de la guerre.
Voilà pour ce reportage d'Arthur Saradin, correspondant au Liban. C'est une grève nationale d'ampleur inédite qui a commencé aujourd'hui en Belgique. Un mouvement de 3 jours contre le gouvernement du Premier ministre Bart De Wever. Résultat, 1 train sur 2 en circulation jusqu'à mercredi, jour où les aéroports belges seront très perturbés. Demain, ce sont les enseignants et les agents de santé de la fonction publique qui sont appelés à cesser le travail avant le secteur privé le lendemain. Les syndicats dénoncent la casse sociale orchestrée par le gouvernement fédéral belge. On retrouve à Bruxelles Pierre Benazé. Bonsoir.
Bonsoir.
Pierre, le gouvernement fédéral cherche des économies depuis des mois et coïncidence, un accord est justement tombé en ce premier jour de grève nationale en Belgique.
Oui, c'est la surprise du jour, un accord au petit matin du gouvernement fédéral. Il a enfin réussi à concocter un budget 2026 après des mois de négociations en forme de psychodrame. Elles ont déjà failli provoquer la chute de la coalition gouvernementale. 2 mesures devraient satisfaire au moins en partie les grévistes, à savoir la TVA qui va finalement pas augmenter tous azimuts et surtout les salaires les moins élevés resteront indexés sur l'inflation. Mais l'accord budgétaire prévoit aussi des économies sur plusieurs années. Continueront à faire grincer des dents dans la rue puisqu'il s'agit d'économiser plus de 9 milliards d'euros d'ici à 2030. La dette et le déficit public de la Belgique sont un peu inférieurs à ceux de la France, mais tout de même catastrophiques selon le gouvernement, largement au-delà en tout cas des plafonds autorisés dans l'UE. La nécessité pour le gouvernement fédéral de faire des coupes claires dans le budget a provoqué grèves et mobilisations depuis 11 mois, avant même l'entrée en fonction du gouvernement en février. Et comme les Belges sont fortement syndiqués, cette grève qui s'étale pour la première fois depuis les années 80 sur 3 jours est effectivement très suivi, en cause évidemment la politique d'austérité déjà entamée qui rabote par exemple les droits au chômage.
Merci Pierre Benazé en direct de Bruxelles. En Espagne, Telefonica va supprimer 5000 emplois. Le géant espagnol des télécommunications l'a annoncé aujourd'hui au syndicat. En pleine restructuration, Telefonica a enregistré pour les 9 premiers mois de l'année une perte nette de plus d'1 milliard d'euros. Le groupe emploie environ 100 000 personnes dans le monde. En Suisse, c'est l'audiovisuel public qui va supprimer 900 emplois d'ici 2029. La direction de la SSR invoque le bouleversement du marché des médias et la réduction progressive de la redevance en Suisse. La SSR qui emploie aujourd'hui environ 7000 salariés. Sébastien Lecornu en est convaincu. Il existe toujours une majorité à l'Assemblée pour voter le budget. Le Premier ministre a pris la parole ce matin à Matignon après le rejet samedi à la quasi-unanimité de la partie recette du projet de loi de finances 2026. Sébastien Lecornu en a profité pour critiquer la France insoumise et le Rassemblement national, coupable à ses yeux d'une forme de cynisme. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Pour faire adopter le budget, le Premier ministre annonce un changement de méthode, mais ses intentions restent à ce stade quelque peu nébuleuses, Stéphane.
Oui, on a du mal à y voir clair dans la nouvelle méthode proposée par le Premier ministre. Déjà, il fait un constat d'échec avec le rejet du budget en première lecture à l'Assemblée nationale, même si, selon lui, ce n'était pas une surprise.
Chacun cherche évidemment à pousser ses propres convictions, à poser en quelque sorte son drapeau idéologique et avec derrière une difficulté de compréhension et de cohérence globale de ce texte.
Pour autant, Sébastien Lecornu estime que rien n'est perdu.
Il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour permettre de voter un budget pour l'année prochaine.
Conscient toutefois de la difficulté d'obtenir une majorité à la fin de la navette parlementaire en décembre, il a proposé une nouvelle méthode qui consiste à enchaîner les réunions dans les prochains jours avec les groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi avec les partenaires sociaux, syndicats et patronats.
Dans ces rendez-vous, dans ces réunions, nous allons poser 5 thèmes thématique prioritaire pour la France.
La première thématique portera sur la nécessité de contenir le déficit public en dessous de 5% du produit intérieur brut. Également sur la table, les questions de la réforme de l'État, de l'énergie, de l'agriculture et puis de la défense et de la sécurité du pays. Tous ces thèmes étant définis comme des priorités absolues. Il veut demander à chacun de se positionner sur toutes ces questions, convaincu qu'il peut obtenir des majorités thématiques et possiblement organiser des votes à l'Assemblée comme au Sénat. C'est là où ça devient nébuleux, car le calendrier parlementaire est déjà très contraint et beaucoup estiment qu'il n'y a pas la place pour des discussions supplémentaires. Ensuite, certains pensent que ça va parasiter des débats déjà très techniques sur le budget et s'interrogent sur une initiative qui vise à contourner l'examen budgétaire. En résumé, personne parmi les parlementaires ne sait vraiment à quoi s'en tenir et surtout, n'ayant pas été prévenu de l'initiative du Premier ministre, beaucoup l'accueillent avec contrariété et scepticisme.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Et pendant ce temps-là, le Sénat, dominé par la droite et le centre, continue à réécrire le budget de la sécurité sociale. Les sénateurs ont voté un amendement qui rejette la limitation à un mois des arrêts de travail. C'est pourtant ce que souhaite le gouvernement. Pour la sénatrice LR Corinne Imbert, plafonner la durée des arrêts de travail mobiliserait plusieurs centaines de milliers d'heures de consultations dans un contexte d'accès aux soins déjà fragilisé. Fin de citation. Les chiffres sont inquiétants car ils augmentent régulièrement. L'an dernier en France, 764 personnes sont mortes à la suite d'un accident du travail selon l'assurance maladie, soit 5 de plus qu'en 2023 et même 26 décès supplémentaires par rapport à 2022. Ces accidents du travail mortels ont lieu d'abord sur le trajet, ils sont ensuite la conséquence des maladies professionnelles. Bonsoir Wafia Kenich.
Bonsoir Stanislas.
Ces chiffres sont d'autant plus inquiétants qu'ils ne portent pas sur l'ensemble des salariés. Il ne concerne que les salariés du privé affiliés au régime général de l'assurance maladie.
Absolument. Les fonctionnaires, les artisans, les indépendants et même les agriculteurs, une profession où pourtant un salarié a 30% de risque supplémentaire de se suicider que dans d'autres secteurs, eh bien tout cela ne sont pas comptabilisés. Pour Frédéric Maud de la CGT, chargé des questions de santé au travail, il conteste donc aussi les chiffres annoncés de la baisse des accidents de travail.
Mécaniquement et statistiquement, on ne peut pas avoir des accidents du travail qui baissent et une augmentation des AT graves et mortels. Ce n'est pas possible. Les médecins et les médecins du travail, eux, concluent à 50% d'accidents non déclarés, que ce soit dans le second œuvre et ça s'élargit, enfin, notamment dans les métropoles. On a quand même du travail dissimulé, de l'économie parallèle à tous les étages. Oui. Puis le salarié ou la salariée qui se blesse au travail, ben, on lui dit « tu restes à la maison, je te paye tout ». Et on déclare ça en maladie, quoi. Ou en accident du travail sans arrêt. Du coup, ça rentre pas dans les indicateurs.
Pour Véronique Millot du collectif de famille Stop à la mort au travail, cela doit être corrigé.
Quand on est allé au ministère du Travail, on avait déjà eu ce débat sur le comptage qui ne donne pas de bons chiffres, hein, qui ne sont pas les vrais chiffres, et où on nous avait dit que oui, effectivement, on a un problème dans notre pays pour compter le nombre de morts au travail, mais ça n'a pas changé en fait. Ça n'a pas changé.
Au printemps dernier, la ministre de l'époque, Astrid Panosyan-Bouvet, avait rencontré syndicats et associations sur ce dossier. Un plan solide était dans les cartons, pas encore repris par Jean-Pierre Farandou, son successeur.
Merci Wafia Kenich pour ces explications. Le festival de BD d'Angoulême aura-t-il lieu comme prévu en janvier prochain? Rien n'est moins sûr après le boycott des auteurs et des éditeurs de bandes dessinées. Les financeurs publics, à commencer par la ville d'Angoulême, demandent eux aussi aux organisateurs de renoncer à l'édition 2026. On devrait en savoir plus ce vendredi avec l'Assemblée Générale de la FIBD, l'association propriétaire de l'événement. En attendant, les déboires d'Angoulême inquiètent suite les autres festivals de BD. Exemple, le festival de bande dessinée Boom de Blois, qui tenait ce week-end sa 42e édition. Chloé Martin a rencontré son directeur.
Impossible, évidemment, pour Bruno Genini de rester dans sa bulle à Blois.
Comme la vitrine de la bande dessinée est dégradée, on peut penser que tout le monde de la bande dessinée va être un peu entaché. Sûrement, d'un autre côté, c'est aussi à nous de dire qu'il existe aussi d'autres modèles.
Dans lequel veut s'inscrire BD Boom à Blois. Le festival fait d'ailleurs partie du Club 99, une fédération de 9 festivals de bande dessinée, sans Angoulême. Tous ont signé une charte à respecter, notamment concernant la rémunération des auteurs, payés 250 € pour leur dédicace et défrayés pour leur venue.
C'est vrai que nous, c'est beaucoup plus petit, donc il y a quelque chose peut-être d'un peu plus humain dans les relations. Tout le monde est mélangé. Donc, en fait, il n'y a pas de hiérarchie dans la programmation et dans la présentation du festival, donc je crois que ça c'est un point qui est important.
Les prix des stands aussi ont été bloqués pendant 15 ans, attractifs pour les indépendants, sans parler de l'entrée pour les visiteurs, elle est gratuite. Le financement du festival repose donc quasi exclusivement sur des subventions, notamment de la ville de Blois, la région Centre-Val de Loire, mais aussi le ministère de la Culture.
Après on est dans un contexte aussi difficile, c'est-à-dire que le ministère de la Culture quand même baisse ses subventions, c'est-à-dire que les DRAC baissent les subventions. L'État baisse aussi ses dotations pour les collectivités locales. Nous, on est un peu les derniers maillons de la chaîne. Donc, ce qui veut dire que par ricochet, il y a moins d'argent public pour soutenir des initiatives dans la bande dessinée. Après, ce qui est sûr, c'est que si un mauvais modèle, ça ne va pas encourager les pouvoirs publics à financer.
Mais il est encore trop tôt pour savoir si le festival de Blois va pâtir ou non de la crise à Angoulême. Seule certitude à l'heure actuelle, avec plus de 200 auteurs et 20 000 visiteurs, BD Boom est le 3e plus important festival de bande dessinée de France.
Le reportage à Blois de Chloé Martin. Il était l'autre légende mondiale du reggae jamaïcain avec Bob Marley, disparu en 1981. Jimmy Cliff est mort, emporté par une pneumonie à l'âge de 81 ans. C'est sa femme Latifah qui l'a annoncé aujourd'hui sur Instagram. « Jimmy, mon chéri, repose en paix, je suivrai tes souhaits », a-t-elle écrit. De son vrai nom James Chambers, Jimmy Cliff a signé quelques tubes planétaires. « Many Rivers to Cross » de « Harder They Come ». En France, son duo avec Bernard Lavilliers lui vaudra l'un de ses plus gros succès. Faouzi Trita, vous revenez sur la carrière de Jimmy Cliff.
Jimmy Cliff est né à St. James, dans l'ouest de la Jamaïque, en 1944. Fin des années 50, il est un jeune musicien qui passe son temps à enregistrer des démos évoquant la vie difficile des Jamaïcains. Déterminé à vivre de la musique, il se rend à Kingston, la capitale. Devant un disquaire, une boutique bien connue pour être un lieu de rencontre de musiciens, Jimmy Cliff y chante et séduit le futur célèbre producteur Leslie Kong à la tête de la boutique qui lui propose un enregistrement. Leur collaboration rencontre plusieurs succès et lance leur carrière respective. Mais ses succès restent limités au marché jamaïcain. Jimmy Cliff désire alors élargir son public et s'orienter vers un style plus pop. Londres, où la diaspora jamaïcaine s'impose dans les clubs, apparaît comme une évidence pour cet exil. En 1969, ses titres célébrant la paix et la diversité, Wonderful World, Beautiful People, s'écoulent chez les disquaires spécialisés. Mais c'est en 1972 que Jimmy Cliff obtient définitivement une visibilité mondiale grâce au film The Harder They Come, un film jamaïcain où il incarne un jeune homme pris dans la spirale de la pauvreté et du crime, tout en signant la bande originale. You can get it if you really want. You can get it if you really want. Ensuite, le visage du reggae de la Jamaïque sera incarné par un autre géant, Bob Marley. Mais Jimmy Cliff ne disparaît pas de l'histoire. Dans les années 80, il collabore avec Kool & The Gang. En 1993, il est même redécouvert avec I Can See Clearly Now, reprise popularisée grâce au film Rasta Rocket, et une nouvelle génération de fans s'intéresse alors à lui. En 2010, de manière un peu tardive, il est intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame, le temple de la musique aux États-Unis. En France, on retiendra deux collaborations avec Bernard Lavilliers et Yannick Noah. Jimmy Cliff laisse derrière lui une trentaine d'albums et des hits intemporels.
Voilà, Reggae Night pour cet hommage de Faouzi Trita à Jimmy Cliff, disparu aujourd'hui à l'âge de 81 ans. Un mot du temps demain, toujours en musique. Un temps marqué par le redoux après la vague de froid de ce week-end. 6 départements sont en vigilance orange, pluie, inondation. Dans les Alpes et le Jura, l'Ain, l'Isère, les Deux-Savoie, le Doubs et le département du Jura. Des pluies également fréquentes sur la moitié ouest. Le soleil devrait dominer sur le pourtour méditerranéen. Les températures minimales restent fraîches, entre 1 et 4 degrés en général. Un peu plus doux vers le littoral. L'après-midi, il fera entre 4 et 13 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique, Marie-Claire Oumabadi.